France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Merci Lionel. On vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne. France Musique.
Benjamin de la Fuente cultive un langage qui prend sa source dans l'expérimentation et l'improvisation en s'affranchissant des étiquettes et des esthétiques. Vient de paraître une monographie regroupant 10 œuvres, composées entre 1997 et 2015, soit 18 ans de création débridée, occasion d'évoquer son parcours et ses quêtes. Benjamin de la Fuente sera l'invité de cette émission. Mais ouvrons ce tapage nocturne avec notre traditionnelle page discographique et une madeleine fleurant bon l'immensité amazonienne. En 1984, deux musiciens brésiliens, le multi-instrumentiste Egberto Gismonti et le percussionniste Nana Vasconcelos, disparus en mars dernier, se réunissent pour la seconde fois pour un opus discographique qui s'éloigne du processus thème-développement pour entrer dans un canevas fait d'atmosphères timbriques. Fait de 8 pièces, Gismonti et Vasconcelos explorent leurs racines, puisant avec intelligence dans les thèmes traditionnels, comme en témoigne l'étonnante version de Aqualera do Brasil, hymne officieux et populaire du Brésil, que les deux musiciens revisitent avec malice.
Thank you.
Colorado Brasil d'Ari Barroso dans la version surprenante d'Egberto Chismonti et Nana Vasconcelos, enregistrée en 1984 pour le label ECM au Rainbow Studio d'Oslo, lieu traditionnel à l'époque des opus discographiques de la firme bavaroise. Alors François, vous nous venez avec une œuvre de Luigi Nono.
Oui, une Madeleine qui remonte aux années 60 et que l'on doit donc à Luigi Nono. La pièce intitulée Omaggio a Emilio Vedova date très précisément de 1960 et a été composée au studio de phonologie de la RAI à Milan. C'est la première œuvre électroacoustique de Nono et la seule qu'il créera uniquement à partir de sources synthétiques. Adoptant une approche plus plastique du son pour aborder ce nouveau défi et travaillant sur la notion de couleur, c'est en toute logique que Nono dédiera cette œuvre à un peintre, en l'occurrence Emilio Vedova, l'un des grands noms de l'art informel, sorte de pendant européen à l'expressionnisme abstrait américain. Pour Nono, la composition de cette œuvre à même la bande est l'occasion de faire l'expérience d'une immédiateté. « J'étais capable, nous dit-il, de m'exprimer, particulièrement en ce qui concerne une certaine violence dramatique, avec encore plus de liberté. » Luigi Nono, omaggio a Emilio Vedova.
Thank you.
Nous venons d'écouter la pièce Omaggio à Emilio Vedova de Luigi Nono.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
À force d'expérimenter, de triturer, de chercher, d'anamorphoser, Benjamin de la Fuente s'est forgé un langage unique qui se joue des esthétiques. Du violon à la guitare, ces instruments sont des alibis à la quête compositionnelle. À l'occasion de la parution de Contre-coup sur le label Signature, qui regroupe des pièces pour ensemble et orchestre sur une période allant de 1997 à 2015, et de la création de Folk Blues Remains à la Maison de la Musique à Nanterre du 23 au 25 février, nous nous entretenons avec le compositeur.
Thank you.
Bonsoir Benjamin Lafuente.
Bonsoir.
Alors votre actualité est multiple, on vous retrouve au sein de Caravaggio, aux côtés de Bruno Chevillon, Éric Echampart et Samuel Siguicelli, avec une nouveauté discographique, mais également sous votre nom avec un disque monographique qui regroupe des pièces écrites entre 1997 et 2015. Que représente pour vous un disque ?
C'est très important d'archiver, d'avoir sur un disque une version bloquée, fixe. C'est une photographie, quoi. En pensant que de toute façon les œuvres vivent après dans les concerts. Faire un disque, c'est assez égoïste. C'est d'abord une manière de faire un bilan, de savoir où on en est, de rassembler des pièces sur 20 ans. Et puis, ça marque quand même malgré tout l'objet. C'est peut-être mon âge et ma génération qui fait ça. L'objet et devoir fixer, d'avoir travaillé aussi pour ça. Alors une monographie, on récupère, mais on construit quand même. Et le concept d'album, de travailler sur un album, une heure de musique à peu près, c'est déjà artistiquement super intéressant. Et le format disque nécessite aussi une manière de penser la musique, une manière de l'écrire. Pour Caravaggio, par exemple, on ne fait pas les mêmes versions en disque qu'en concert. Et quand on écrivait un tiers des morceaux sont écrits en studio, on les pensait à la fois pour le studio, à la fois pour le live. Il n'y a pas beaucoup de concerts. En ce qui me concerne, on peut pas dire j'ai pas 200 concerts dans l'année non plus. Donc c'est le disque, c'est une très belle carte de visite qui permet aussi aux gens loin ou qui me connaissent pas bien ou mal de faire connaître ma musique que je cautionne en disant ça je cautionne. Après vous aimez ou vous aimez pas, mais ça sera pour des bonnes raisons. Donc cette histoire de bilan, d'archivage, on sait très bien que c'est noyé totalement dans le flux d'informations qu'on reçoit, mais au moins je rencontre des gens, je donne un disque, voilà. Ou à la fin des concerts, c'est aussi un souvenir. Moi, je me suis positionné avant de faire les disques. On se pose la question, Caravaggio, est-ce qu'on va continuer à faire des disques ? Est-ce qu'on fait du numérique ou pas ? Est-ce qu'on fait que des formats, ce qu'on appelait autrefois des maxi singles, c'est-à-dire des morceaux qui sont pas de 3 minutes 30 pour la radio, puisqu'on s'en fout, puisqu'on passe pas forcément à la radio, enfin tout quoi les radios commerciales. Donc faire un truc de 10 minutes, qu'on envoie très régulièrement, ou faire un album, enfin en tout cas c'est ou un objet sublime, d'un seul coup qui est plus dans le format CD, carré, qui peut être un très bel objet. C'est des questions qui sont encore d'actualité, pourtant je pensais que tout le monde nous disait qu'en 2017 le disque ça serait sûrement déjà terminé. Puis finalement, moi je vois en tant que spectateur, je suis bien content d'avoir un disque à la fin des concerts. Je suis bien content de pouvoir réécouter des choses et de retrouver, au lieu d'entendre un disque dur, hop, bien rangé, un vieux disque. Même les pièces électro, je suis bien content d'avoir un François Bayle là, plutôt que d'aller sur YouTube et avoir une version MP3. Pour l'instant, personne ne me prouve que le disque est mort. Et même si quelque chose va changer, c'est toujours... il a toujours sa place, il est toujours pour ceux qui aiment vraiment la musique et pour ceux qui cherchent des albums, une heure de musique, si je télécharge, je peux télécharger des chansons ou des morceaux de pop, etc. Et là, je sens moins le besoin, la nécessité d'avoir un album dans les mains, parce que ça sera par titre.
1997-2015, 18 ans de composition. Quel regard vous avez sur le langage de 1997 ?
Pas mal de tendresse, en fait. C'est très bizarre, parce que autant je me bats pour être indulgent sur mon travail, mais c'est vrai que, justement, c'est tellement loin que quand je réécoute des vieilles pièces, à une époque, je l'ai rejeté, et puis aujourd'hui, j'y vois ce que je suis. Il y avait une sorte de jeunesse, de fragilité, de volontarisme, adolescent, une envie comme ça de prouver quelque chose dans l'écriture, de se placer. C'est pour ça que je les ai placés sur la monographie, d'ailleurs. Certaines pièces qui sont pas grandes pièces, hein, mais je considérais que la monographie et le disque aussi, c'est bien aussi de proposer. Un parcours avec sa fragilité, avec... Ce que j'aime, c'est le bootleg, moi. Finalement, plus les albums sont produits, moins ils m'intéressent. Mais plus ils sont version live, bootleg, archivage, tout ça, ça me plaît bien. Donc, mettre une vieille pièce avec sa fragilité, avec ses faiblesses formelles, où on sent les limites de l'écriture. Parfois, j'ai considéré que ça valait le coup de la présenter, quitte à me mettre en danger, moi. Mais si on veut pas se mettre en danger, on arrête de faire ce métier.
Le disque s'ouvre sur On Fire, une œuvre pour comédienne, piano, sampleur et orchestre, sur des discours de Malcolm X. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer dans cette pièce ? C'est un acte politique ?
Non, très sincèrement non. Au départ, j'avais un projet avec l'orchestre. Il y avait la thématique du festival, les deux Amériques. Je savais que la plupart des gens allaient avoir un rapport avec l'Amérique du Sud. J'ai réfléchi et je suis tombé sur Malcolm X. Je suis allé voir des discours sur Internet, son flow, sa manière comme un prêcheur, quoi, sa rage, sa jeunesse, et puis ensuite le contenu. Mais au départ, c'était presque musical, quoi. Je me suis dit, mais ce gars est incroyable, quoi. En 64, 63, d'avoir cette voix. D'ailleurs, je suis sûr que Obama, il a écouté. C'est pas possible, parce qu'il y a des fois, il y a une manière de dire le texte un peu pareil. Il y a toujours un côté prêcheur, mais et un peu élégant, un peu classe comme ça. Malcolm X, un petit peu moins. Il était plus dans une urgence. Et après, je me suis intéressé au personnage. Mais d'abord, c'était d'abord sa musicalité, sa manière de faire. Et puis après, le contenu. Et après, je me suis dit, mais c'est fou comment on nous a présenté cet homme comme quelqu'un de mauvais. Et il dit bien, à un moment donné, dans notre texte, il dit, vous verrez, dans, je sais plus quoi, à ma mort, on m'associera au mal. Et effectivement, moi, je veux dire, quand j'étais enfant, On nous présentait Malcolm X comme ce type avec ses lunettes, les Black Panthers, ils étaient morts déjà, ils ont été... Et d'abord, un, les Black Panthers ils n'ont jamais tué quelqu'un, ils n'ont jamais bastonné quelqu'un, donc ça on le sait donc déjà. Mais quand bien même, lui il les a même pas connus, donc il n'y avait pas de violence chez lui, il a jamais... Donc il y a tout un truc autour de lui qui effectivement a été monté, et puis de très jeune. Donc effectivement, il a adhéré à un mouvement musulman qui s'est avéré assez intégriste, anti-blanc, dont il s'est séparé. Et il en est mort, hein, parce qu'on pense qu'entre la CIA et tout ça. Donc je suis rentré totalement dans son histoire qui est romanesque. J'ai vu des films, après j'ai vu des documentaires. Et je me suis dit, mais il faut que je retrouve cette force-là. Et je me suis dit, il faut que je la mette en français. Au début, je voulais prendre un américain, etc. Puis finalement, je me suis dit non. Je vais prendre une comédienne, Pierre Formenti. Donc une femme, dit en français, traduit en français, pour aujourd'hui, pour voir ce que ça fait. Après, enfin, toute modestie, ça a été très puissant, parce que c'était très actuel. Et je l'ai transposé, je l'ai mis dans un autre contexte, comme on peut faire en électro, on décontextualise l'écoute. Finalement, j'ai pris ça et je l'ai mis dans une salle de concert, en français, traduit et dit par une femme aujourd'hui. C'est très violent, quoi. Et ce n'est qu'après, effectivement, je me suis retrouvé engagé. Et puis j'avais aussi envie de prendre des risques. Je voulais que ce projet-là soit surpuissant, super bavard, presque indigeste, pendant 23 minutes. Je voulais que ça soit un vrai combat entre l'orchestre et la comédienne. Et je ne voulais pas que ça s'harmonise. D'ailleurs, j'ai écrit toute la pièce d'orchestre d'abord, et après j'ai mis le texte comme j'ai pu à certains endroits. Et Piara est excellente. Elle comprend toutes les partitions. Et les mesures à 5, à 7, je sais pas comment, je lui ai fait un fichier MIDI de la partition piano. Du coup, je pouvais m'insérer, et donc, dans une lutte, je voulais quelque chose d'assez brutal, en fait. Je me place dans le milieu de la musique contemporaine, dans lequel il y a des choses auxquelles j'adhère, des choses auxquelles j'adhère pas. Et il y a une chose qui, moi, m'intéresse, c'est d'être franc du collier, plus direct, plus sauvage, et surtout moins flou dans le projet artistique, parce que souvent j'entends des pièces et je me dis mais ça me raconte quoi, où est-ce que ça va en venir, c'est joli, bien fait, mais bon. Et donc voilà, c'est critique que je peux faire par rapport à ce que j'écoute. Je me place toujours par rapport à ce que j'entends autour, donc je reste toujours spectateur et auditeur. Donc je me suis dit bon voilà, on va faire un truc sur Malcolm X, on va y aller, on va travailler sur la rage. Et je veux que l'orchestre soit ça, c'est le système, la société, le truc, et qui empêche de parler cet homme. Et il va en mourir. Il n'y a pas d'issue. C'est plus facile de travailler sur Malcolm X d'un point de vue rythmique, d'un point de vue orchestration, etc., que sur Luther King, par exemple. Parce que c'est un truc qui est dans la paix ou dans l'harmonie. Ça m'intéressait moins. Je trouve qu'il y avait moins de... Donc là, je voulais être dans le conflit. Donc il y a Willem Lachoumia au piano, qui est en conflit avec l'orchestre, qui est en conflit avec... Avec Pierre Rice. Et donc il y a trois entités qui bataillent pendant 23 minutes. Donc c'est soit ça plaît, soit c'est les gens partent, mais voilà, les gens sont restés, c'est dire.
Tout mariage entre une personne blanche et une personne nègre ou d'ascendance nègre de la quatrième génération est interdit. Les écoles pour enfants blancs et pour enfants nègres doivent être séparées. Tout nègre et toute femme blanche qui ne sont pas mariés et qui vivent habituellement ensemble ou partagent la même chambre la même nuit sont punissables d'une amende de $500 ou d'un emprisonnement de 12 mois. Aucune personne ou société n'exigera de n'importe quelle infirmière féminine blanche de travailler dans des salles d'hôpitaux publics ou privés dans lesquelles des nègres sont placés. Le conducteur de train doit assigner à chaque passager le wagon ou le compartiment qui lui est destiné selon sa couleur.
beau, mais c'était être aveugle et stupide de ne pas les voir comme ils étaient. Mais depuis que l'honorable Mohammed nous a enseigné l'islam, nous voyons cette chose pâle exactement comme elle est. Rien d'autre qu'une vieille chose pâle. Je crois que l'islam est la meilleure religion pour notre peuple, car elle crée l'unité, te donne dignité, te permet d'avoir confiance en toi, et toutes ces choses nécessaires pour construire un être humain complet. Frères et sœurs, je suis ici pour mettre les blancs en accusation. J'accuse les blancs d'être les plus grands assassins sur cette terre. J'accuse les blancs d'être les plus grands kidnappeurs sur cette terre. Nulle part dans ce monde où il est passé, il peut dire qu'il a créé la paix et l'harmonie. Partout où il est passé, il a semé le chaos. Partout où il est passé, il a semé la destruction. C'est pourquoi je l'accuse. Je l'accuse d'être les plus grands kidnappeurs sur cette terre. Je l'accuse d'être les plus grands assassins sur cette terre. Je l'accuse d'être le plus grand voleur, le plus grand esclavagiste sur cette terre. J'accuse les blancs d'être le plus grand mangeur de porc, le plus grand ivrogne sur cette terre. Il ne peut nier ses accusations, vous non plus, vous ne pouvez nier ses accusations. Nous sommes la preuve vivante de ses accusations. Vous en êtes la preuve vivante. Tu n'es pas américain. Tu n'es qu'une victime de l'Amérique. Tu n'as pas choisi de venir ici. Que tu sois né ici, je ne suis pas de toi un américain. Je ne suis pas américain. Tu n'es pas américain, tu n'es qu'un parmi les 20 millions de noirs qui sont victimes de l'Amérique. Moi et toi, nous n'avons jamais connu la démocratie. On n'a jamais connu la démocratie dans les champs de côté de Géorgie. Il n'y avait pas de démocratie là-bas. Il n'y avait pas de démocratie là-bas, on n'a jamais connu de démocratie. Tu n'es pas américain, tu n'es qu'une victime de l'Amérique. Il n'a jamais dit, frère, noir, soeur, noir, viens avec moi, nous partirons ensemble l'Amérique. Il a dit, vous les maîtres en fond de calme, je vous expédie là-bas et vous travaillerez pour la construction de l'Amérique. Tout ce qu'on a connu, c'est l'hypocrisie. Le rêve américain, qu'on n'est pas. Nous vivons chaque jour le cauchemar américain.
France Musique.
Alors vous associez Caravaggio à un ensemble plus rock que musique contemporaine. Pourquoi ?
Il faut juste parler de la rencontre, vite fait, 2004, 2003, je ne sais plus, je croise Éric Champart et Bruno Chevillon dans le trio Marc Ducret. Samuel Guicelli écrivait une pièce pour contrebasse que Bruno allait jouer. Moi, j'avais écrit une pièce pour batterie qui avait été créée ici, d'ailleurs, au GRM. Et je voulais la remanier. Et Éric Champart était là. Ils sont tous les deux super lecteurs. On s'est rencontrés dans un club de jazz, quoi. Et puis, on s'est dit, tiens, on va faire un disque. Donc, on est allé à la Muse en Circuit à l'époque. On a, pour enregistrer la pièce pour batterie et la pièce pour contrebasse. Puis, on s'est retrouvés avec 3-4 jours d'enregistrement. On s'est dit, on est tous improvisateurs, on va improviser. On est parti avec, je sais plus. 7h, 8h de musique, soit en 50 pistes. J'étais à Rome, à la Villa Médicis, à ce moment-là, donc j'avais du temps. Et donc on est parti avec des disques durs et tout ça, et on a fait avec Samuel un montage totalement électro, pensé comme une pièce électroacoustique. Les deux pièces, on les a vite montées, mixées, etc., et puis de tout le reste. Et on s'est retrouvé avec un résultat qui était plutôt intéressant, et on a fait circuler ce disque, et tout le monde nous a dit « mais il faut absolument faire ça en live, quoi ». C'était impossible, parce que c'était de la musique, c'était de la musique électroacoustique, en fait. Mais on reconnaissait de la basse, on avait 25 micros sur la basse, machin, donc on a ce qu'on pouvait faire des égalisations, utiliser telle piste, enfin bon, je pense pas qu'on le referait, parce que c'était un travail de titan. Et à la suite de ça, on nous a proposé un concert. Et du coup, le groupe est né comme ça. On a tout réadapté, on a passé 10 jours en studio pour essayer d'adapter ça, donc sampler, clavier, ça on peut pas le faire, tant pis, ça il faut faire plus long. Et donc on a servi finalement le groupe, c'était plutôt au service de composition, de travail, d'écriture, plutôt qu'au service d'individus. On n'était pas dans la performance individuelle, on n'était pas comme dans le jazz, le chorus. Et on s'est dit, tiens, c'est intéressant, parce que finalement, deux musiciens de jazz, deux musiciens de la musique contemporaine, qui se rassemblent pour faire finalement, au départ, la musique électro-rock. Et puis finalement, plus on a fait de live, plus on s'est retrouvé à faire du rock, avec une pensée électro-acoustique. cinéma, tout un rapport au cinéma, à la voix off, de films, des scènes de films, tout un imaginaire qui nous vient, mais alors de la musique électroacoustique avant tout, quoi. Parce qu'on a, on a énormément d'électronique au pied, analogique, et Samuel a beaucoup de choses. Et c'est un rêve de gosse. Parce qu'on a tous fait du rock finalement, tous les quatre, on l'a tous fait quand on était gamin. Puis à un moment donné, on l'a abandonné, quoi. Et mouiller le t-shirt sur scène, jouer, c'est un truc, quoi. Faire de la scène rock, c'est un truc. Et ça nous manquait un peu. Et on a perdu évidemment toute la naïveté, toute la, je sais pas quoi. Bien sûr, on est hyper sophistiqué. Alors des fois on a marre, des fois on a envie d'être plus brut, plus grunge. Et puis après, le studio, l'électro, le compositeur, le jazzman et le compositeur contemporain revient au galop. Du coup, on raffine à mort, on répète des heures pour jouer 3 minutes sur le 15 minutes du morceau. Bon, voilà. Mais donc on a perdu cette naïveté, ce côté direct. Mais quand même, c'est quand même super agréable de composer pour le Philharmonique de Radio France. Et puis après, deux jours plus tard, on est sur une scène et on a le track, on envoie les watts et les amplis. Mais en même temps, on peut jouer du pianissimo 4P à triple forte ou quadruple forte. Et puis une batterie énorme et des trucs rythmiques. Ce qui est super, c'est qu'au niveau du langage, on est hyper libre. On joue sur des grilles modales, on est sur de l'électro, on est sur du bruité, on est sur du pur électro concrète. Après, on est chez Stockhausen, après, on est chez Ligeti. Enfin, ce qui est extraordinaire avec ce groupe, c'est que comme on partage l'écriture, on est vachement plus à l'aise avec ça. Et donc, du moment que on a notre garde-fou qui est notre oreille, on est dit, on peut glisser de do majeur. Donc, moi, mes partitions, c'est, chacun se fait ses partitions. On a un mode, je dois travailler ré mineur 7 sur tel truc, puis à un moment donné, je dois travailler sur des bruités, sur un ring modulateur pour faire des petites cloches. Et après, on travaille sur des trames. Enfin, tout notre vocabulaire, c'est soit rock, soit Pierre Schaeffer, quoi. Donc, en fait, c'est quand même super agréable.
Votre instrument de prédilection, c'est le violon. C'est difficile en tant qu'improvisateur de s'affranchir du déterminisme du violon avec tout ce qu'il évoque et tout ce qu'il véhicule.
Moi, j'en avais très envie de m'en défaire de toute façon. Puis, j'avais pas les moyens, moi, de devenir violoniste. Quand j'étais au CNSM à Paris, donc j'ai fait composition, puis après j'ai fait la classe d'impro. J'étais à l'école normale en violon, mais le classique m'intéressait beaucoup. J'ai fait beaucoup d'heures de violon et par jour jusqu'à m'en rendre malade, 6, 7, 8 heures. Puis au bout d'un moment, on voit ce qu'on est capable de faire. Donc je voyais bien que plus ça allait, plus je passais du temps à improviser. Je savais même pas que ça s'appelait improvisation, mais j'étais gamin. Et puis à un moment donné, c'est nos oreilles, nos goûts qui nous guident, mais j'ai aucun mal à quitter le violon dans sa tradition. Au contraire, j'y suis revenu en tant qu'auditeur avec grand plaisir. J'écoute du violon, j'ai des disques de violon, j'adore ça. J'ai redécouvert mon instrument justement en lui mettant des pinces à linge dedans, en le faisant sonner différemment, en mettant des pédales d'effet. Tout ça est venu très progressivement, mais par projet. C'est quoi, j'ai dit, ah bah tiens, il faut que je me déplace. Il faut que je me déplace. Donc, j'apprends à jouer avec du violon en me déplaçant. Ah bah tiens, le pizz là, ça sonne pas assez bien parce qu'il y a un percussionniste. Du coup, je vais mettre le violon en position guitare, ça va m'aider parce qu'avec le pouce, ça va être mieux. Ah bah finalement, là, ça sent très bien quand le son soit dans une réverb profonde. Ah bah tiens, il faut que je m'achète une pédale. Puis une deuxième, puis une troisième. Et donc, de fil en aiguille, les petits, c'était pas un plongeon, hein, c'était petit à petit. Au départ, on nous dit, bon voilà, improvise. Mais sonne ce que tu es toi. Après, on se rend bien compte qu'il se trouve que très vite, c'est très paradoxal, parce qu'à la fois, on a un amour pour l'instrument nouveau qu'on a dans les mains, parce qu'on le redécouvre avec grande fraîcheur, et en même temps, on a une sorte de détachement. C'est-à-dire, bah, finalement, c'est quand même un bout de bois avec quatre cordes et du crin de cheval que je frotte. Donc, mais c'est pas méprisant du tout. C'est, je remets le truc, c'est un instrument à cordes frottées. Donc, et après, je peux faire des trucs dedans, voilà. Et comme compositeur, musique électro, etc., j'allais chercher tout ce qui pouvait sonner bien, tout ce qui il y avait un côté esthète quand même dans la recherche. Pas juste, je torture mon instrument pour pouvoir m'en échapper. Pas du tout. J'ai jamais voulu torturer mon instrument. D'ailleurs, pour un spectacle, on m'avait demandé, c'est un petit film, on m'avait demandé de casser un violon qu'on avait acheté 30 euros. J'y arrivais même pas. J'étais bloqué. Donc j'ai beaucoup de d'amour pour cet instrument et en même temps un détachement. Et après je peux écouter un Brahms ou les partitas ou n'importe avec un grand plaisir, sachant que de toute façon c'est pas pour moi. Je les travaille hein, bien sûr en sucré.
Est-ce que l'écoute reste un élément essentiel de votre processus de création ?
Bah, j'oublie jamais que la musique, c'est d'abord fait pour les oreilles. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, depuis très longtemps, je mets quasiment rien dans les notes de programme, dans les concerts, ou très peu, juste guider, justement donner un petit peu d'humain, c'est-à-dire voilà mon idée de départ, voilà où ça en est, guider un petit peu, quoi. Avec Caravaggio, on enregistre tout ce qu'on fait, donc forcément, on se place toujours en auditeur. Sur Folk Blues Remain, sur le spectacle, c'est pareil, j'enregistre tout, donc je reviens à la maison, donc je me place toujours en auditeur. En tant que compositeur, je découvre mon travail, j'ai pas de simulateur sur l'ordinateur, donc je découvre mon travail avec l'orchestre, quoi, avec l'ensemble. Donc je dois toujours me placer à la place du public, et j'ai toujours fait la différence entre ma cuisine, ma technique de composition, et ce qui va être perçu de ça, ou pas. Donc il y a des choses que je dois entendre, je dois faire entendre, et des choses qui sont pas importantes à entendre. Ils sont juste ma manière de mon processus de travail. Donc j'essaye. Je dis pas, il y a des choses que des fois j'attends d'être perceptible, et puis finalement ça allait beaucoup moins. Voilà. Mais avec les années, je suis moins en moins surpris, quoi. Je maîtrise un peu plus les choses. Du coup, je me dis, bon, alors ça, c'est ma cuisine, ça, c'est mon système, mais sache que ça ne sera pas perçu. Ça va me permettre d'organiser mon travail, mais ça, et puis ça, par contre, je dois le donner à l'auditeur. Sachant que, hélas, dans notre milieu, une écoute, des fois, il n'y en a pas deux. Donc, la pièce d'orchestre On Fire a été jouée une fois. Donc, je suis pas sûr que ça sera rejoué. Donc, coup de bol, ça a été enregistré. Avec un mixage tout à fait relatif, mais hélas, j'ai pas pu avoir autre chose. Donc il faut qu'à la première écoute, on puisse saisir tout ce que j'ai envie de faire passer, quoi. Et après, on se rend compte quand même que nos idées, nos petites marottes, nos petits machins, qui nous permettent aussi d'entretenir et d'organiser notre vie musicale, notre vie artistique, notre démarche, des fois elle est pas si intéressante que ça, et que ce qui fait la qualité de notre travail est un truc qui nous échappe, et tant mieux. Et que souvent le public vient nous voir pour nous dire bravo pour ce passage là et puis ça, ou j'ai beaucoup aimé ça dans tel dit, dans le... et puis finalement c'était une préoccupation mineure par rapport à le message que je veux faire passer, puis finalement la chose que je fais passer donc ça c'est dans des vraies discussions avec les compositeurs, parce que ça leur... moi je en fait je m'en fous un peu maintenant. Je fais mon travail, je fais avec ce que je suis intéressant ou un peu moins, du moment que ça puisse toucher quelqu'un et que j'ai du retour, ou ça m'a rendu fou, ou ça m'a horripilé, ou ça j'ai adoré, ou tel passage là j'ai rien compris, enfin du moment qu'il y a de la vie, il y a de l'échange, je continue. Après j'ai pas grand chose à raconter finalement de plus intéressant, et hélas je révolutionne pas la musique, j'aimerais bien, hein. J'y crois toujours, à chaque fois que je me mets une pièce, on est au 21e siècle, il faut arrêter de faire la musique qu'on faisait jusqu'à maintenant, quoi. Mais j'arrive pas, donc j'essaie de trouver autre chose, une autre manière de collaborer, jusqu'à la pensée, la diffusion, le machin. Mais ce qui est important, c'est juste de laisser de la place à l'auditeur, qui puisse lui se raconter sa propre histoire, pas imposer de manière monolithique une pensée avec 25 polycopiés avant le concert, une musique qui laisse absolument pas le temps d'entrer, donc pas, je sais pas, enfin j'essaye de, et bah là, je suis en plein dedans, c'est pour ça que j'en parle, mais sur Folk Blues Remain, je fais que ça, je me libère énormément, je laisse énormément de place aux spectateurs de pouvoir faire le lien entre l'image, le film, le blues, le rapport au blues. Je suis de moins en moins volontariste. On Fire est un contre-exemple, évidemment. Mais là, c'est une rage jetée, quoi, pendant 23 minutes. Mais là, c'est tout le contraire. On est plutôt dans un bain. Et je laisse après le spectateur trouver ce qui. J'accepte le fait de pas tout contrôler et de laisser un peu une certaine liberté et puis de pas tout pouvoir justifier. Et on nous a toujours, dans notre formation, parce que la formation est très importante, beaucoup moins dans la musique pop, dans la musique classique, contemporaine, la formation, il faut passer une dizaine d'années pour s'en défaire. Et c'est vrai qu'on nous a tellement appris à justifier tout que ça en devient un vrai problème. Et à un moment donné, moi j'aime bien l'idée, et c'est pour ça que je fais aussi des spectacles, c'est parce que le spectacle me libère aussi de tout ça, de l'esthétique déjà, du style, tonal, modal, bruité, je sais pas quoi, sériel, ou spectral, je m'en fous complètement, je fais en fonction de ce dont j'ai envie, ce qui est le besoin du moment, etc. Donc déjà je me libère, et puis aussi, c'est toute une équipe, la lumière, donc il y a plein de choses qui nous échappent, et moi je me rends compte que c'est comme une personne qu'on aime, finalement c'est souvent ce qui nous échappe chez la personne aimée, dans l'amour, c'est souvent la personne, c'est souvent ce qui nous échappe. Et c'est pas forcément sa jolie coiffure ou qu'elle s'est fait jolie ce jour-là qui est le plus intéressant, mais c'est peut-être le sourire un peu maladroit ou une maladresse dans son comportement, sa manière de marcher ou un rictus. Voilà. C'est évident que tout ce qui est contrôlé et tout ce qui est bien maîtrisé perd à un certain pouvoir, mais perd son charme à un moment donné. Et j'ai tendance à croire que dans le travail artistique, c'est pareil. Et que si on contrôle tout, et si on bétonne tout, ça sera bien. Hein. Tu vois les gens qui sont super forts et on aura un savoir-faire énorme. Mais à un moment donné, il manquera cette petite faille, cette petite chose qu'on a laissé passer et qui fera peut-être toute la différence.
Merci beaucoup en tout cas, Benjamin Fuente, d'être venu dans ce tapage nocturne. Et à bientôt.
À bientôt.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Sandra Daizamba. Attaché d'émission, Soizic Noël. Chargé de réalisation, Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et son Al Abrévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.